Aujourd'hui, nous allons continuer dans Ésaïe. Ésaïe 46. Encore une fois, Ésaïe est un prophète. Il annonce, dans le sens de l'Ancien Testament, des choses qui ne sont pas encore arrivées. Et là, il s'adresse aux Juifs de Jérusalem, de Juda, en leur disant que ils vont être libérés d'un esclavage dont ils n'ont pas encore commencé à goûter les effets. Il a prédit qu'ils vont être emmenés en esclavage, mais dans sa grâce, il leur annonce aussi qu'ils vont être libérés de cet esclavage. Encore une fois, on pourrait penser que c'est des vieilles histoires, et certes, ce sont des événements historiques pour certains qui se sont passés il y a bien longtemps, 500 ans avant notre ère chrétienne, l'arrivée de Jésus à Noël, ou l'époque que l'on fête à Noël. Mais si on a des instruments, de la nouvelle technologie, les mêmes problèmes restent dans nos cœurs. Ces choses ont été écrites pour nous sur qui la fin des temps est arrivée, nous dit l'apôtre Paul dans Corinthiens. Et donc on va voir que ces choses ne sont pas si loin de nous, comme on le voit en étudiant tout ce livre du prophète Ésaïe ou l'Ancien Testament. Je commence à lire à partir du verset 1 du chapitre 46. Belle s'agenouille, Nebo se courbe, on met leur simulacre sur des animaux, sur des bêtes, vous les portiez et les voilà chargés, devenus un fardeau pour l'animal fatigué. Ils se sont courbés, ils se sont agenouillés, ils ne peuvent libérer le fardeau et ils s'en vont eux-mêmes en captivité. On a retrouvé à Jérusalem, dans la colline d'Ophel, où se trouvait l'ancienne ville du roi David, des tas de sculptures, des tas de fragments, de statuettes. Et l'archéologie confirme ainsi que Israël, Juda, le royaume du sud, mais le royaume du nord était lui aussi tombé dans l'idolâtrie. Le royaume, les Juifs à qui Dieu avait confié ses oracles, comme il est dit dans Romains, ceux qui avaient reçu la parole de Dieu, ceux que Dieu avait choisis pour amener son fils, en fait s'étaient mis à l'idolâtrie. Et les noms qui sont cités ici, ce sont les noms de Dieu de Babylone, mais qui étaient aussi répandus dans le monde antique. Bel, c'était le roi, c'était le dieu qu'on appelait Marduk dans d'autres régions. C'était le dieu du soleil, c'était un peu le dieu tout-puissant. On l'aurait comparé pour les Grecs au dieu Zeus. Nebo, c'était son fils, qui lui était le dieu de l'intellect, de l'intelligence, de la sagesse, de la connaissance. Lui, on l'aurait comparé au dieu Hermès chez les Grecs ou Mercure chez les Romains. Bel, c'était le même nom que Baal, celui qui était considéré comme le dieu créateur. Et ces dieux, ça représentait un peu les plus célèbres des dieux du panthéon de l'époque, dans l'idolâtrie. On met leurs simulacres, des statues, c'est-à-dire des correspondances sur des animaux, sur des bêtes, vous les portiez et les voilà chargés, devenus un fardeau pour l'animal fatigué. « ceux qui se tournent vers ces dieux, en fait, ce sont des dieux qu'ils doivent porter. C'est l'inverse. C'est pas logique. Si Dieu est Dieu, c'est pas vous qui allez le porter, c'est lui qui va vous porter. C'est ce qui va être dit un peu plus loin. On a l'impression des fois que certains mouvements religieux, certains mouvements chrétiens, vous disent que vous devez supporter Dieu. On a à l'arrière de la salle une petite boîte où vous pouvez mettre vos dîmes et vos offrandes. Mais n'allez jamais penser que Dieu a besoin de votre argent. N'allez jamais avoir l'impression que c'est vous qui supportez Dieu. Lorsque vous donnez votre dîme, vous reconnaissez que c'est Dieu qui vous supporte. C'est Dieu qui vous a trouvé du travail. C'est Dieu qui vous a donné les visas qui vous permettent de travailler si vous êtes étranger ici. C'est Dieu qui vous trouve des ressources par la générosité d'autres personnes. C'est Dieu qui vous soutient. C'est Dieu qui soutient l'Église. Jésus bâtit son Église. C'est pas nous qui bâtissons l'Église. Et pourtant, un peu comme à l'époque, on a l'impression qu'il faut faire du ra-ra-ra, il faut essayer de mobiliser les troupes, il faut gesticuler. Vous avez vu ces pasteurs là, ou ces évangélistes qui se promènent sur les scènes en transpirant, en vous demandant de donner davantage, etc. Non, ce qu'on veut faire, c'est se laisser porter par Dieu, se laisser transformer par Dieu. Alors ceux qui les portent, parce qu'on dit qu'à l'occasion de la nouvelle année, ils transportaient ces dieux sur des animaux, sur des bêtes, ou alors sur des barres qu'ils mettaient sur leurs épaules. C'est intéressant, on pense que c'était vraiment des peuples primitifs, mais on peut encore aller voir en Espagne, dans certaines régions, ou dans l'Église catholique, on sort encore avec la Vierge, la statue de la Vierge sur le dos, ou la statue des saints, et on porte, et on se cache, on se flagelle le dos. C'est pas Dieu qui soutient les hommes, ce sont les hommes qui essaient de soutenir leurs idoles. Ils se sont courbés, ils se sont agenouillés. Ils ne peuvent libérer le fardeau et ils s'en vont eux-mêmes en captivité. C'est des dieux qui partent en captivité avec le peuple. Pas pour les accompagner dans l'épreuve, mais parce que c'est eux qui sont portés par ces gens et ils vont là où les gens vont. Écoutez-moi, verset 3, maison de Jacob et vous tous, reste de la maison d'Israël. Vous que j'ai pris à ma charge dès le sein maternel, que j'ai porté dès votre naissance, jusqu'à votre vieillesse je serai le même, jusqu'à votre âge avancé je vous soutiendrai, je l'ai fait et je veux encore porter, soutenir et libérer. Dieu leur fait remarquer que lui c'est l'inverse, c'est pas eux qui le soutiennent, c'est eux qui les soutiennent. Dès le sein maternel. Le psaume 139 nous dit que, avant même que nous soyons créés, Dieu nous formait dans le sein de nos mamans. Il est bon de savoir que Dieu nous connaît, Dieu prend soin de nous. Avant même qu'on ne naisse, et jusqu'à votre vieillesse, alléluia, jusqu'à votre âge avancé, c'est lui qui nous soutient, à tous les âges de la vie. Vous pouvez faire confiance à Dieu. Il va vous soutenir. Il l'a fait et il va encore porter, soutenir et libérer. Les autres étaient obligés d'emmener leurs dieux, leurs idoles en captivité. À qui me comparerez-vous, verset 5, et me rendez-vous égal ? À qui me ferez-vous ressembler pour que nous soyons semblables? Ils versent l'or de leur bourse et pèsent l'argent à la balance. Ils paient un orfèvre pour qu'il en fasse un dieu et ils font des révérences, ils se prosternent et ils le portent. Ils le soutiennent avec l'épaule, ils le déposent là où il restera. Il ne bouge pas de sa place. Même si l'on crie vers lui, il ne répond pas, il ne sauve pas de la détresse. Souvenez-vous de cela et soyez des hommes rebelles. Prenez la chose à cœur. Nous vivons dans un âge où les hommes disent, pour la plupart, ne plus croire en Dieu. Mais c'est faux. Tous les hommes ont un Dieu, tous les hommes servent quelqu'un, tous les hommes donnent de leur pensée, de leur énergie, de leurs ressources à quelque chose. Et si ce n'est pas le vrai Dieu, ça s'appelle une idole. Ça peut être le travail, ça peut être l'argent, ça peut être les plaisirs, ça peut être la sexualité, ça peut être... Vous mettez ce que vous pensez, la célébrité, les connaissances, le prix Nobel, vous mettez ce que vous voulez, si ce n'est pas le vrai Dieu décrit dans la Bible, révélé, qui s'est révélé par la Bible, c'est une idole. Et Dieu les met au défi. Si vous voulez me faire représenter par une idole, par une statuette, à quoi vous allez la faire ressembler, cette statuette ? Dieu est esprit, ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Et typiquement, les hommes se disent, si j'étais Dieu, qu'est-ce que j'aimerais pouvoir faire ? Et c'est comme ça qu'ils viennent avec leurs idoles. Si j'avais le choix, j'aimerais être beau comme Apollon. Tiens, je vais faire un dieu qui va s'appeler Apollon. Si j'étais guerrier, j'aimerais être puissant comme Hermès, comme Mars. Je vais faire un dieu qui s'appellera Mars. Et ainsi de suite. À qui me comparerez-vous et me rendrez-vous égal ? Il raconte toujours, nous avons vu que Ésaïe, et peut-être que vous dites, on a déjà parlé de ça. Amen. On a parlé des comment Ésaïe se moque des idoles, les dénigre dans le chapitre 40, au chapitre 41, au chapitre 44, au chapitre 45, au chapitre 46. Il en est question dans les psaumes 115, dans les psaumes 135. Est-ce qu'on ne pourrait pas parler d'autre chose ? Bien sûr, on va parler d'autre chose, ne vous en faites pas. Mais si Dieu a répété ça autant de fois dans sa parole, c'est parce que nous avons un réel problème avec ça. On se dit, bon, d'accord, on a compris le coup des idoles. Non, Dieu veut me parler, veut te parler, veut vous parler. Est-ce qu'il n'y a pas des idoles dans votre vie ? Encore une fois, qu'est-ce qui rend la vie passionnante pour vous ? Est-ce que c'est votre relation avec Dieu ou bien est-ce que c'est la dernière technologie ? J'ai mon téléphone qui est tombé en panne et maintenant je me demande quel nouveau téléphone je vais prendre. Et je commence à comparer et bientôt je passe plus de temps à regarder les catalogues qu'à lire la Bible. Pourquoi ? Parce qu'on veut toujours le dernier cri, enfin peut-être pas pour tout le monde, mais on est dans une société qui vénère la nouveauté. C'est nouveau, c'est extra, c'est mieux. Je connais des personnes qui ont les téléphones les plus sophistiqués, on peut faire des choses incroyables. Je pense à mon père qui aimait bien la technologie, mais qui est décédé en 68. S'il voyait le téléphone qu'utilise mon fils aîné, il n'en reviendrait pas. Il dirait, c'est pas possible, comment vous faites ? Et pourtant, même avec ces téléphones, des fois lorsqu'on appelle pour simplement prendre rendez-vous ou dire une urgence, ça passe pas. Ou la personne ne répond pas, la personne est en train de faire autre chose sur cette nouvelle technologie. On vit dans une société où c'est l'idolâtrie qui est le moteur de l'économie. La pub, c'est la convoitise. C'est avoir ce que les autres ont. c'est avoir toujours plus. Si vous cherchez les plaisirs, vous allez tomber dans le ce désir d'avoir toujours plus. On n'est jamais satisfait. Si vous voulez de l'argent, quand est-ce que vous aurez assez d'argent pour être satisfait ? On demandait à Rockefeller combien il fallait d'argent pour être heureux. Il disait 1 million de plus. 1 million de dollars de plus. Souvenez-vous de cela. Et ces dieux-là qu'ils portent, qu'ils ont façonnés, qui sont incapables de les soutenir, ils les déposent et là ils vont verser 7 et là ils ne vont pas bouger. Ce n'est pas des dieux, ils ne bougent pas de sa place. Même si l'on crie vers lui, il ne répond pas, il ne sauve pas de la détresse. Vous pouvez invoquer le dieu des plaisirs, vous pouvez invoquer le dieu de l'argent, Mammon, Baal, Nebo. C'est intéressant que ces noms, Baal, Nebo, on les retrouve dans plein de noms de rois, Nabucodonosor, Nabopalassar. C'était des noms qui étaient tellement vénérés que les rois les incluaient dans leurs noms. Souvenez-vous de cela et soyez des hommes rebelles. Prenez la chose à cœur. C'est intéressant, être des hommes. Alors certains vont dire c'est sexiste. Non, soyez des êtres humains à part entière. Faites ce que Dieu vous a créé pour. Et là, une des solutions, c'est qu'on est des hommes quand on rejette l'idolâtrie. Ce n'est pas en faisant des exploits, en levant des centaines de kilos, en ayant le prix Nobel. Non, on est des hommes lorsqu'on rejette l'idolâtrie. Prenez la chose à cœur. Et il nous dit, il nous interpelle, vous êtes des rebelles. Est-ce que vous savez que vous êtes un rebelle ? Souvenez-vous des premiers événements, car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et rien n'est semblable à moi. On a parlé de ce passage où il était dit justement ne vous souciez pas, oubliez les choses du passé. Et on a fait la remarque, en fait, il y a des choses à oublier, il y a des choses dont il faut se souvenir. L'ennemi aimerait que vous vous souveniez de vos péchés, l'ennemi aimerait que vous vous souveniez de votre vie loin de Dieu, avec regret peut-être. Je m'amusais beaucoup plus quand je n'étais pas chrétien, je faisais n'importe quoi. Tu te rappelles quand on se saoulait la tête là ? Ah, c'était le bon temps. Non, ce n'était pas le bon temps. L'ennemi voudrait que vous pensiez à ces choses, mais Dieu vous dit, souvenez-vous des bonnes premières choses qui se sont passées dans votre vie. Encore une fois, il nous dit, je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. On a parlé de ça, et là aussi c'est quelque chose qui est répété sans arrêt presque dans le prophète Ésaïe. Dans ce livre et dans d'autres, bien sûr, il n'y a pas d'autre Dieu, il n'y a pas d'autre cause, il n'y a pas d'autre personne qui vaille la peine d'y consacrer votre vie, votre ressource, votre énergie, vos pensées, dès que vous levez, dès que vous vous endormez. J'annonce dès le commencement ce qui vient par la suite et longtemps d'avance. Encore une fois, Dieu s'authentifie par les prophéties. Il dit, est-ce qu'il y en a d'autres qui peuvent ainsi annoncer à l'avance ? Il nous rappelle, j'appelle, il dit, ce qui n'est pas encore accompli, je dis, mon projet tiendra bon et j'exécuterai tout ce que je désire. J'appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine l'homme qui accomplira mes projets. Ce que j'ai dit, je le fais arriver, ce que j'ai concis, je l'exécute. Écoutez-moi, gens endurcis de cœur, si éloignés de la justice. Je fais approcher ma justice, elle n'est pas loin, et mon salut, il ne tardera pas. je mettrai le salut en Sion pour Israël, ma parure. Là, c'est une allusion à cette prophétie dont on a parlé dans les chapitres précédents, la prophétie de l'empereur, du roi Cyrus, qui allait venir tel un oiseau de proie avec une rapidité exemplaire. En un jour, il allait faire tomber, il va faire tomber Babylone, l'empire de Babylone qui a emporté Jérusalem, plutôt Juda, et dont la capitale était Jérusalem, en exil à Babylone. Ça, c'est le passage bien connu dans Daniel 5, où le roi, on peut regarder et commenter un petit peu, ça se trouve, c'est le dernier des grands prophètes, page un peu sur la droite, page 880. C'est le roi Belshazzar qui donne un grand festin au grand chef au nombre de 1000. Et en fait, ça, c'est une fête qui tourne à l'orgie. Ils boivent de l'alcool, ils boivent du vin. Ils utilisent même des ornements, des ustensiles qui avaient été pris dans le temple de Jérusalem. Ils boivent du vin, verset 4, ils louent les dieux d'or, d'argent, de bronze, de fer, de bois et de pierre. L'idolâtrie bat son plein, et c'est là qu'il y a cette main qui écrit sur le mur, « Méné, Méné, Tekel et Parsine », qui veut dire, c'est dit à la fin du chapitre, « Tu as été pesé, trouvé léger, ton royaume sera divisé, donné aux Mèdes et aux Perses. » Méné, Méné, ça veut dire compter, Tekel, ça veut dire peser, et Parsine, ça veut dire diviser. Ça, c'est Daniel qui interprète ce message qui est écrit par une main sur le mur. Il est dit au verset 30, « Cette même nuit, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué. » Il est expliqué dans d'autres passages qu'en fait, le Cyrus donc, est arrivé avec ses troupes et qu'il a détourné le cours de l'Euphrate qui passait sous la ville de Babylone. Il y avait une grille qui empêchait les gens d'entrer dans la ville, mais en détournant le fleuve, il a permis à ses troupes de passer sous les grilles, dans le cours d'eau, et de prendre en une seule journée, en une seule nuit, la ville. C'est pour ça qu'il le compare à un oiseau de proie. C'est comme s'il avait, il l'avait d'un seul coup attrapé dans ses serres, Babylone. Le chapitre 47 parle de la façon dont Babylone est emmenée elle-même en exil. Et vous vous souvenez que Dieu avait décidé d'utiliser Babylone pour juger son peuple. Dieu est plein d'amour pour nous, mais comme un père qui sait nous discipliner, il peut utiliser des ennemis pour nous ramener, nous rappeler à l'ordre, pour nous ramener à lui. Et les Babyloniens, de toute évidence, avaient pensé que c'était parce qu'ils étaient un peuple spécial que Dieu leur donnait la victoire sur les troupes, sur les royaumes du Nord et surtout le royaume du Sud ici. Mais on va voir qu'en fait, ils ont été trop loin dans leur façon d'être utilisés par Dieu pour juger son peuple. Verset 1 du chapitre 45, « Descends, assieds-toi dans la poussière, vierge, fille de Babylone. Assieds-toi à terre, sans trône, fille des Chaldéens. On ne t'appellera plus délicate et voluptueuse. Prends les deux meules et moue de la farine. Retire ton voile, relève les pans de ta robe, découvre tes jambes. Traverse les fleuves, ta nudité sera découverte, on verra ton déshonneur. Je tirerai vengeance, je ne frapperai pas avec humanité. Notre Rédempteur s'appelle l'Éternel des armées, le Saint d'Israël. Assieds-toi en silence et va dans les ténèbres, fille des Chaldéens. On ne t'appellera plus la souveraine des royaumes. J'étais indigné contre mon peuple, j'avais profané mon héritage et je les avais livrés entre tes mains. Tu n'as pas eu de compassion pour eux, tu as lourdement appesanti ton joug sur le vieillard. Tu disais « À toujours je serai souveraine ». Tu n'as pas pris ces choses à cœur, tu ne t'es pas souvenu qu'elles auraient une fin. Écoute maintenant ceci, voluptueuse qui t'assied avec assurance et qui dit en ton cœur « Moi, et rien que moi, je ne serai jamais veuve, je ne connaîtrai pas la privation d'enfant. » Ces deux choses t'arriveront. En un instant, au même jour, la privation d'enfant et le veuvage, elles fondront sur toi dans toute leur rigueur, malgré la multitude de tes sortilèges, malgré la puissance de tes pratiques magiques. Descends dans la poussière, vierge fille de Babylone. La ville, le royaume de Babylone allait tomber en 539, 150 ans, 200 à 150 ans plus tard que le moment où ces prophéties sont écrites par le prophète Ésaïe. On sait que Babylone était une civilisation assez sophistiquée. On a retrouvé des ruines. On a parlé des jardins suspendus de Babylone. Elle avait la réputation d'être délicate et voluptueuse, c'est-à-dire qu'il y avait une grande pratique des arts, du plaisir de vivre païen. Mais là, d'un seul coup, elle va se retrouver, cette grande civilisation, à terre. Elle va être emmenée en exil. Elle va être comme en esclavage, prends les deux meules et moudre la farine. Moudre la farine, ce n'était pas une tâche facile. Il n'y avait pas de mixeur ou de moulin électrique, c'était un travail difficile. Retire ton voile, relève les pans de ta robe, découvre tes jambes, traverse les fleuves, ta nudité sera découverte. Ça rappelle les prophéties de Ésaïe 3, au début du livre, qui parlait des femmes de Jérusalem qui étaient des femmes orgueilleuses, qui se vantaient de leur beauté, qui se préoccupaient de leur tenue, de leurs vêtements, de leurs bijoux. Et l'Éternel leur prédisait déjà qu'elles allaient se retrouver en esclavage, dans la nudité, dans la honte. Au lieu d'une ceinture, il y aurait une corde, au lieu de parfum, il y aurait de l'infection. Au lieu d'une coiffure arrangée, il y aurait une tonsure. Au lieu d'un manteau de luxe, d'un sac enroulé, il y aurait une marque flétrissante au lieu de la beauté. Les hommes tomberaient par l'épée. Ces choses se sont passées pour Jérusalem, mais Dieu promet la même chose à Babylone, parce que Babylone va se montrer sans pitié pour le peuple juif. Encore une fois, Dieu dit que le peuple juif, c'est comme la prunelle de ses yeux. Si on touche à la prunelle de ses yeux, il va être très irrité. Si on vous met le doigt dans l'œil, vous savez combien ça fait mal, combien ça fait réagir brutalement. Eh bien, c'est ce qui va se passer. Dieu ne va pas laisser le peuple juif maltraité. Et on sait que l'histoire du monde, c'est la persécution des Juifs. Ça a commencé avec dans ces exils, ça s'est continué par Esther, le diable a toujours voulu détruire le peuple juif par qui allait arriver le Sauveur. Aujourd'hui encore, on voit un antisémitisme qui est de nature spirituelle. On a expliqué que ça ne veut pas dire que être pour les Juifs, ça veut dire être pour tout ce que fait l'État d'Israël. Mais il est important de savoir que Dieu a un plan pour le peuple juif qu'il accomplira et qu'il va bénir comme il va bénir l'Église. Le grand mystère, c'est que les deux peuples en qui il y avait une inimitié seront rassemblés. Ce sera le peuple de Dieu. L'Apocalypse nous explique que dans la grande période de la grande tribulation, un grand nombre de juifs viendront à Jésus. Il y a déjà quelques juifs messianiques qui reconnaissent en Jésus le Messie attendu par les juifs, mais pour la plupart, ils sont encore dans l'aveuglement. Mais ça va changer pendant la période de la tribulation. Il y aura un reste important qui viendra à Jésus. Mais là, on voit que Dieu va être dur avec ceux qui sont durs avec Israël. Dès la Genèse, Dieu avait promis à Abraham qu'à travers lui, toutes les nations seraient bénies par l'arrivée d'un Messie, que ceux qui béniraient Israël seraient bénis, que ceux qui ne la béniraient pas seraient aussi maudits. Il y a un terme qui est intéressant, ici on n'en a pas trop parlé dans les chapitres précédents, bien qu'il ait été utilisé. Il est dit, notre Rédempteur s'appelle l'Éternel des armées, le Saint d'Israël. Le Rédempteur, c'est le mot qui traduit le mot Goël. Goël, c'était dans l'Ancien Testament, dans les lois de la Torah, du Pentateuque, c'était la personne qui était celui qui venait racheter pour être en mesure de racheter. Il y avait plusieurs types de rachats. Il y avait le rachat de l'esclavage lorsqu'on était trop pauvre et qu'on se vendait en esclavage. On pouvait être racheté si quelqu'un venait avec l'argent pour nous racheter et nous redonner la liberté. Il y avait aussi le rachat de propriété. Si on était trop pauvre, on pouvait donner des champs, son champ, sa maison, pour payer des dettes. Le Goël, le Rédempteur, pouvait venir et racheter ses propriétés. Il pouvait même racheter une postérité. Si un homme n'avait pas d'enfant, ce Rédempteur pouvait lui assurer une postérité en donnant des enfants, en faisant des enfants avec son épouse. Ce rachat, en fait, il y avait des conditions. Pour être un rédempteur, pour être celui qui rachetait, il fallait d'abord être de la famille de la personne qui avait quelque chose à racheter, que ce soit sa liberté, sa propriété, sa postérité. Il fallait être de la famille de cet homme. Il fallait avoir les moyens. C'est pas le tout de vouloir aider les autres. Bien des fois, on aurait envie de régler les problèmes des personnes autour de nous, ceux qui sont dans la difficulté financière, peut-être en faisant un gros chèque. Ça n'empêche pas de faire ce qu'on peut, mais bien souvent, on veut, mais on ne peut pas. Il faut avoir les moyens. Et puis la condition essentielle, c'est que cet homme, la personne qui avait besoin de rachat, ne pouvait pas le forcer à le faire. Vous ne pouvez pas aller voir votre oncle et lui dire « Écoute, tonton, rachète-moi ma maison. » Il n'était pas obligé de le faire. La condition, c'était qu'il le veuille bien, qu'il ait la volonté de faire. Il fallait donc un parent qui avait des moyens et qui voulait bien, pour être un Goël. Et ce Goël, c'est bien sûr une image de celui qui est venu nous racheter, de Jésus-Christ. Il s'est fait homme parce qu'il, comme ça, il est devenu un frère. Nous sommes de la même famille. Première condition a été remplie. La deuxième condition, il est Dieu. Il a tous les moyens du monde. Il peut racheter. Il a les moyens, il a les euros, les dollars, les marques, les francs suisses que vous pouvez imaginer. Et puis, la merveille des merveilles, c'est que ce proche parent qui a des moyens, il a bien voulu venir. Il est notre Goël, il est notre Rédempteur. Il nous rachète, nous qui étions dans la captivité, il nous rachète. Il nous donne tous ses biens, tout son héritage, tout ce qu'il a nous appartient. En lui, nous avons, dans les cieux, nous avons toutes les bénédictions spirituelles en Christ. Les choses matérielles, on y attache beaucoup d'importance, mais mon téléphone est tombé en panne, il est bon à jeter. Cet ordinateur qui est le dernier cri dans... Attendez 5 ans. Vous serez embarrassé de montrer à vos amis que vous utilisez encore cet ordinateur parce qu'ils auront le dernier cri. Les choses matérielles passent si vite, tout rouille. C'est le principe de l'entropie. Vous faites une belle maison, au bout de quelques années, il y a des failles, il y a des fissures, il y a la peinture à refaire, il y a eu des glissements de terrain. Le matériel, c'est temporaire. Les bénédictions spirituelles, ça c'est la vraie richesse. Et nous les avons toutes en Christ. Et puis, il nous a même racheté une postérité. En lui, nous sommes une race royale. Nous sommes des prêtres, nous sommes des... Il est dit dans l'Apocalypse, au chapitre 1, lui qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, nous a donné la liberté. Il fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. Nous sommes une race royale, dit l'apôtre Pierre. Jésus est notre rédempteur. Il s'appelle l'Éternel des armées. On a vu qu'il n'y a qu'un seul Dieu, qu'il est le premier, qu'il est le dernier. On a vu dans Ésaïe des textes qui nous disent cela du Père. On sait dans l'Apocalypse et dans d'autres passages que Jésus est le premier et le dernier. Il n'y en a pas d'autre. C'est le même. C'est le même Dieu. Un Dieu unique en 3 personnes. On ne comprend pas, mais c'est la vérité qui nous est révélée par la parole. Et ce Dieu qui nous a créés, Il nous aime au point d'avoir tout fait pour nous racheter. Il est notre créateur. Si vous pensez qu'il n'y a pas de créateur, vous allez vivre au niveau de l'animal. Et c'est ce qui se passe dans notre société. Les gens pensent qu'on n'est que des... On n'est que des animaux un peu plus génétiquement complets que certains autres, mais on a les mêmes gènes que les cochons, et donc on peut se comporter comme des cochons. On en vient à ne plus se préoccuper que de satisfaire les besoins entre guillemets naturels, alors qu'en fait on est créé par Dieu à l'image de Dieu. Nous sommes faits pour avoir une relation avec Dieu. Et tant qu'on n'a pas cette relation avec Dieu, on va faire n'importe quoi, on va adorer n'importe quoi. Si on ne croit pas à la vérité, on va croire à n'importe quoi. On vit dans une société qui, si l'on en croit les médias, est allée sur la Lune. Je sais qu'il y a sur Internet certains qui pensent que ça a été tout fait en studio. Mais on a fait des ordinateurs, on a des avions, on a des fusées. On est des gens évolués, instruits, scientifiques. Et en même temps, dans tous les journaux de la planète, il y a encore l'horoscope. Pourquoi ? Parce que les gens, refusant de croire à Dieu, il est dit dans Romains, vont croire à n'importe quoi. Nous sommes faits à l'image de Dieu, nous avons cette soif d'une relation avec lui. Et si elle n'est pas satisfaite dans la réalité, elle va se satisfaire dans n'importe quoi. Elle va se satisfaire de choses qui paraissent absolument ridicules. Quelles sont les bases scientifiques de l'astrologie ? Est-ce qu'il y a des formules ? Est-ce qu'il y a des... Non, ce sont des traditions qui datent justement de la période de Babylone. Et les hommes, en refusant de croire à la vérité, c'est la, la célèbre description de la dévolution de l'homme moral. On va juste lire quelques versets de Romains 1, 18. « La colère de Dieu se relève du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour Dieu, car Dieu le leur a manifesté. » Il y a une création qui nous montre qu'il y a un Dieu. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient fort bien depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Il suffit de voir la création, l'infiniment grand, l'infiniment petit, pour savoir qu'il y a une puissance éternelle et une divinité de Dieu. Verset 21. Ils sont donc inexcusables, ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu, ils ne lui ont pas rendu grâce, mais ils se sont égarés dans de vains raisonnements, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge. C'est ce que l'homme moderne fait lorsqu'il dit qu'il n'y a pas de Dieu. Ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Le passage continue en disant que Dieu essaie de les amener à la fin d'eux-mêmes en les livrant des passions déshonorantes, en les remplissant, les laissant, en leur donnant une mentalité réprouvée pour commettre des choses indignes. Ça, c'est l'homme qui est rebelle et qui dit « Dieu n'existe pas ». Babylone, c'était la puissance. À l'époque de la réalisation de cette prophétie, c'était devenu la puissance mondiale qui avait des ressources incroyables, qui avait la plus belle ville du monde. Et elle se disait, moi, rien que moi. Je ne serai jamais veuve, je ne connaîtrai pas la privation d'enfant. Elle pensait que jamais il était possible, inimaginable, que sa puissance militaire puisse être mise en défaut. Notre pays a été comme ça à une époque. On était une puissance mondiale. On avait des colonies. On était grand, on était fort. Les États-Unis étaient un peu comme ça, sont encore un peu comme ça. Mais s'ils ne prennent pas garde, et on a vu que leur puissance, ils se disaient qu'ils ne seraient jamais attaqués, et voilà qu'ils ont connu des attaques sur leur sol. Et les deux choses, d'être veuve, de perdre leurs époux dans la guerre, d'être privé d'enfants, c'est arrivé en un instant, au même jour, le fameux jour où Babylone est tombée aux mains des Perses, Cyrus et Darius, son nom, qui sont venus prendre le pouvoir, et qui sont devenus la nouvelle puissance mondiale. Le prophète Daniel parle d'ailleurs de la succession des empires du monde. L'empire de Babylone, c'était le premier grand empire. Et puis après, il y a eu l'empire grec, et puis après l'empire romain. Et puis finalement, c'est l'empire, le royaume de Dieu qui est le seul empire qui va durer pour toujours et qui va mettre à bas tous ces empires. On peut être découragé en tant que chrétien, se dire que rien ne va plus. Qu'on n'a aucune influence dans le monde. Détrompez-vous. Dieu va triompher. Il s'énerve contre les puissances magiques, la pratique des sortilèges, tout ce qu'on disait sur les horoscopes. Tu avais confiance, verset 10, dans ta méchanceté, tu disais, personne ne me voit, ta sagesse et ta connaissance t'ont tourné la tête. Et tu disais en ton cœur, moi et rien que moi. Encore une fois, cette fausse confiance, cette idée que Dieu n'existe pas, personne ne me voit. Non, Dieu est toujours là, qui voit tout ce qu'on fait. Même lorsqu'on fait des choses qui sont mal en secret, Dieu les voit. Et ça, c'est important de le réaliser parce que la présence de Dieu, c'est la meilleure prévention contre le péché. Un malheur viendra sur moi, verset 11, sans que tu en connaisses l'horreur. La calamité, tombera sur toi sans que tu puisses la conjurer et la ruine fondra sur toi tout à coup à l'improviste. Du jour au lendemain, les choses peuvent changer. On l'a vu, on en parle souvent de l'empire communiste, de l'URSS qui, en quelques heures, est tombé. Reste donc au milieu de tes pratiques magiques et de la multitude de tes sortilèges auxquels tu as consacré ton travail dès ta jeunesse. Peut-être pourras-tu en tirer profit, peut-être deviendras-tu redoutable. Tu t'es fatigué à force de consulter. Qu'il se lève donc et qu'il te sauve ceux qui quadrillent le ciel, qui observent les astres, qui annoncent d'après les nouvelles lunes ce qui doit t'arriver. Là encore, Dieu vous dit, les horoscopes, c'est bidon. Il y a même des passages où il est dit que il faut vraiment ne pas toucher à ces choses. Parce que c'est bidon, c'est faux. On peut quadriller le ciel, observer les astres. Ça, c'est les décans de l'astrologie. Observer, voir qu'est-ce qui va se passer. Mais lorsqu'on fait ça, on dit à Dieu qu'il n'existe pas et Dieu ne peut pas nous encourager dans cette voie. Il va nous laisser à nos malheurs. Voici qu'ils sont comme de la paille qu'un feu consume, ils n'arracheront pas leur vie aux flammes. Ce n'est pas de la braise pour leur pain, un brasier devant lequel on s'assied. Le feu dont il est question, c'était le feu de à l'époque, mais c'est aussi à la fin des temps. Et ce n'est pas un petit feu devant lequel on peut se moquer. Vous entendez des fois des gens qui disent « Ah ben, moi je veux bien y aller !» En enfer. J'avais fait la connaissance d'un ancien colonel des marines qui avait tenu un restaurant à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Et on avait commencé à faire une petite étude biblique avec quelqu'un et il n'était pas très content qu'on fasse cette étude biblique. Mais on avait pu lui parler. Et il est mort depuis, je ne sais pas où il est, mais il disait, on lui demandait s'il avait peur de la mort, il disait, non, je n'ai pas peur de la mort. Il disait, les marines ne vont pas en enfer, ils vont juste là-bas pour se regrouper et pour faire la fête. Et lui aussi pensait que le feu, c'était les flammes de l'enfer, c'était de la braise pour le pain, on pouvait s'amuser, on n'avait pas peur de Dieu. J'ai peur qu'il ait dû déchanter. On a essayé de partager l'évangile, mais il était assez braqué dans ses positions. Voilà ce que deviendront, verset 15, ceux pour lesquels tu te fatiguais, ceux avec qui tu as trafiqué dès ta jeunesse, erreront chacun de ce côté. Personne ne te sauvera. On avait terminé la semaine dernière par ce merveilleux verset qui disait dans le chapitre 45, verset 22, « Tournez-vous vers moi et soyez sauvés, vous tous, les confins de la terre, car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. » On a expliqué que c'était le verset qui avait interpellé le grand prédicateur Spurgeon au siècle dernier, en 1850 pour être exact. Le 6 janvier 1850, il avait entendu un prédicateur occasionnel répéter ce verset en guise de sermon. « Tournez-vous vers moi et soyez sauvés, vous tous les confins de la terre, car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. » Si nous tournons vers lui, nous serons sauvés. Par contre, il est dit clairement, si nous croyons être tout-puissants par nous-mêmes en rejetant Dieu, alors la conclusion, verset 15, « Personne ne vous sauvera. » Voilà le message de répéter par le prophète, par Dieu, parce qu'il sait qu'on a tous un problème. On a tous des idoles dans nos têtes. Mais si on se tourne vers Dieu, on va être sauvé une fois pour toutes, et on peut se tourner, on l'a dit la semaine dernière, on peut se tourner vers Dieu quotidiennement, heure par heure, moment par moment, pour être sauvé d'une fausse façon de vivre, de faire des choses qui ne satisfont pas, qui ont toujours besoin de plus. Prions et demandons au Seigneur de parler au cœur de chacun.